RVA.
RVA s'est intéressé au livre de Laurent Giraldon, son premier ouvrage « Les nuits absurdes » qui raconte son addiction à l'alcool où il décrit sans tabou sa descente aux enfers et son long parcours pour s'en sortir. Rédiger ce livre a été avant tout pour lui un travail thérapeutique et de nombreux lecteurs se sont également retrouvés dans ses écrits. Tout de suite, on l'écoute. Bonjour Laurent Giraldon.
Oui, bonjour.
Vous êtes donc l'auteur du livre « Les nuits absurdes ». C'est votre premier ouvrage qui traite de votre addiction à l'alcool. Vous y décrivez sans tabou votre descente aux enfers et aussi votre long parcours pour vous en sortir avec de nombreux hauts et bas. Et finalement, une renaissance s'offre à vous, en partie grâce à ces écrits. Et pour commencer cette interview, j'aimerais donc parler du ton que vous donnez à votre témoignage. Vous l'avez donc trouvé, j'imagine, spontanément, comme si vous teniez votre propre journal intime. C'était un peu l'idée recherchée. Vous livrez naturellement ?
Au départ, c'était une sorte de journal intime, en fait. Une sorte de carnet de bord, de carnet de voyage pendant mon périple de soins. Et puis, au fil du temps, après, je l'avais repris, je le remettais au goût du jour. Et puis, jusqu'à il y a 2 ans à peu près, où là, j'ai décidé vraiment d'en faire un livre et d'y apporter vraiment... Un style particulier.
Et finalement, l'idée d'écrire un récit sur votre addiction, ça ne vous enchantait pas forcément au début, c'est ce qu'on a pu lire dans votre livre. Finalement, est-ce qu'on peut dire que ça a été un réel exutoire, cette symbolique de faire votre introspection au gré de votre plume? Est-ce qu'on peut dire finalement que ça a été vraiment libérateur pour vous?
Ah oui, ça a été vraiment libérateur. Et puis ce livre, je l'ai fait aussi, effectivement, ça a été à but thérapeutique, on va dire, au départ. Et puis progressivement, il y a eu cette envie d'écrire et d'apporter une patte, un style particulier, parce qu'il y a déjà eu beaucoup de livres qui ont été écrits sur le sujet, et je voulais vraiment qu'il ait sa touche à lui. Et puis surtout, je voulais que ce livre serve aussi aux gens qui sont encore dans la tourmente, quoi. Et surtout qu'il serve aux gens qui les entourent, qui souvent sont un peu perdus et se sentent impuissants. Et puis, s'il y avait un seul message dans ce livre, parce que c'est pas un livre à message, mais s'il y avait un seul message, ce serait celui-là, c'est que on peut y arriver, on peut s'en sortir, c'est difficile, c'est dur, mais on peut y arriver, quoi.
Et donc, vous avez eu des retours de ces lecteurs qui se sentiraient touchés directement comme indirectement par vos écrits ?
Oui, j'ai eu beaucoup de retours, notamment au travers des réseaux sociaux, avec des gens qui... Beaucoup de gens qui m'ont écrit, justement, des gens qui étaient concernés par le sujet. Alors, pas eux forcément directement, mais justement beaucoup de gens qui avaient des personnes dans leur entourage qui étaient dans la dépendance à l'alcool et qui, en fait, cherchaient un peu des solutions, étaient un peu perdus. Et puis, finalement, ce livre les a aidés à mieux comprendre ce qui pouvait se passer dans le mécanisme de la dépendance, en fait.
Et comme vous disiez, vous avez vraiment apporté votre style à vous, votre écriture à vous. Est-ce qu'on peut parler tout simplement du titre et du choix du titre, pardon, Les Nuits Absurdes? Parce que c'est vrai que vous employez souvent un ton très ironique pour parler de l'alcool. On le compare aussi, vous le comparez aussi, pardon, à une femme. Donc pourquoi ce titre? C'était pour résumer en quelque sorte l'esprit de votre ouvrage?
Alors en fait, le titre, il a une petite histoire, c'est qu'il y a eu plusieurs titres... possible, dont à une époque je voulais l'appeler Toujours Debout. Et en fait, le problème, c'est que Renaud a sorti son album justement à ce moment-là, qui s'appelait Toujours Debout. Donc en fait, je me suis dit, bon, je peux pas l'appeler Toujours Debout, ça serait vraiment trop... ça allait pas du tout. Et puis en fait, après, je cherchais un titre et il se trouvait que dans un des poèmes qu'il y a entre chaque chapitre, il y avait cette phrase où je dis et puis ces nuits absurdes où je me dézinguais à vouloir m'oublier, et puis ces nuits absurdes, ça m'est resté, et je me suis dit le titre, il est là, quoi. C'est ces nuits de non-sens où on fait n'importe quoi et où on est perdu, quoi, on n'existe plus vraiment, quoi, en fait.
Et donc effectivement, vous parliez de vos poèmes, à chaque chapitre, on l'a vu et on les a lus. Donc cette passion de l'écriture, finalement, ça vous a toujours accompagné, même pendant vos périodes de vie les plus difficiles?
Oui, toujours. Mais ça fait longtemps que j'avais même avant tout ça, j'avais ce projet d'écriture. Et depuis, finalement, ça a déclenché encore plus l'envie d'écrire. Là, je suis reparti sur un nouveau projet, mais cette fois-ci, ça sera un roman. Donc quelque part, c'est vraiment le concept de résilience, en fait, qui est important aussi. C'est-à-dire que de cette faiblesse passagère à un moment de ma vie, bah finalement j'en ai fait quelque part une force qui me permet d'avancer encore plus maintenant, quoi.
Et on viendra donc sur ces projets à venir, hein, ça fait partie de mes questions, mais avant j'aimerais revenir donc sur le livre actuel, bien sûr. En dehors des passages descriptifs de votre état face à l'alcool, vous dénoncez aussi les conditions de vie et de travail, hein, dans les centres psychiatriques et de cure. Est-ce que c'était important pour vous vraiment de pointer du doigt ce problème?
Ah oui, ça me tenait à cœur parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup en ce moment par la force des problèmes à l'hôpital. Mais je voulais aussi mettre l'accent sur le manque criant de moyens en psychiatrie, quoi. Parce que alors là, c'est vraiment terrible. On le ressent. Il n'y a pas de moyens. Alors si vous êtes dans le public, là, c'est peut-être le pire, j'allais dire. Malgré toute la bonne volonté, et là, je veux vraiment leur tirer mon chapeau et leur rendre hommage au personnel, en fait, qui font un boulot fabuleux, qui sont souvent découragés par les rechutes, les échecs, les gens qui voient revenir longtemps et régulièrement. Et puis le privé, ou alors là, par contre, il n'y a pas de moyens, mais par contre, là, on sent bien que on enrichit pas mal les actionnaires, quand même, plutôt. Mais il n'y a pas de moyens. C'est pas pour autant que le parcours de soins est meilleur, sauf si vous êtes vraiment très très, on va dire très à l'aise financièrement et que vous pouvez partir dans une belle clinique en Suisse pour vous faire soigner, quoi. Mais sinon, à part ça, en France, c'est très très compliqué, quand même. Et je peux en parler parce que j'en ai vu beaucoup.
Et donc, si je me trompe pas, hein, ça fait plus de 10 ans que vous avez réussi à sortir de votre addiction. Est-ce que je peux vous demander quel est votre rapport à l'alcool aujourd'hui?
Ah ben, mon rapport à l'alcool, il est qu'il n'y a plus du tout d'alcool dans ma vie, quoi. C'est-à-dire que l'alcool est banni complètement, il n'y en a plus chez moi, il n'y en a plus du tout. Et puis je vis très bien sans, il n'y a pas de problème par rapport à ça. J'ai organisé ma vie par rapport à ça. Et puis elle n'est plus du tout au centre de ma vie. Je peux assister à des repas, des fêtes, des choses comme ça, où des gens boivent, hein, parce que ça fait partie aussi de la vie, dans un repas au restaurant ou entre amis. Et je vis très bien cette abstinence-là, sans jamais aucune envie, sans jamais aucune pression par rapport à ça, quoi.
Et finalement, comment vous pourriez décrire votre vie et quotidien aujourd'hui, du coup, rempli d'espoir, peut-être?
D'espoir et puis de sérénité. Parce que, si vous voulez, parmi toutes les choses qu'on perd avec l'alcool, à partir du moment où on rentre dans la dépendance, hein, j'entends, je ne suis pas là en train de dire, je n'ai pas du tout un discours de prohibition, l'alcool, ça fait partie de la vie, et puis moi, je dis il faut s'amuser. Le problème, c'est à partir du moment où vous êtes dans la dépendance, vous perdez plein de choses. C'est-à-dire que moi, j'ai tout perdu, hein, le schéma classique. C'est-à-dire que j'ai perdu mon travail, j'ai perdu la femme qui m'accompagnait, j'ai perdu beaucoup de mes amis, la moitié de ma famille. Donc à partir de là, il faut se reconstruire. Mais j'ai envie de dire, la pire des choses qu'on perd dans cette histoire, en fait, c'est sa liberté. Et ça, c'est le pire. C'est-à-dire que quand vous êtes dépendant à l'alcool, vous n'êtes plus libre. Vous êtes dépendant à l'alcool, vous ne pouvez pas vivre sans. Et toute votre vie est conditionnée, en fait, autour de ça. Et ça, c'est peut-être le pire qui puisse vous arriver, en fait. Et là, aujourd'hui, 10 ans après, hein, le temps a passé, c'est vrai. Mais c'est surtout ça que je ressens, c'est ce sentiment de liberté, en fait.
Et sinon, concernant vos proches, est-ce qu'ils ont pu lire votre livre? Est-ce que vous avez eu des retours de vos proches avec qui, par exemple, comme vous disiez, vous aviez perdu contact à cause de l'alcool?
C'est pas pour ça qu'on a repris contact, parce que ceux qui ont décroché, finalement... qui ne m'ont pas accompagné jusqu'au bout, et je peux les comprendre, hein, parce que c'est vraiment très difficile. La vie a fait que la rupture, finalement, a été après définitive, quoi. C'est-à-dire que c'est très difficile après de raccrocher les wagons. Enfin, en tout cas, je sais qu'ils l'ont lu, et je sais aussi que ça leur a permis de mieux comprendre ce qui se passait, en fait, à l'intérieur de moi, quoi. C'est pour ça que j'ai écrit ce livre, pour faire comprendre aux gens ce qui se passe et les mécanismes, en fait, qui se mettent en place dans le cerveau d'une personne qui est dans la dépendance à l'alcool, ou une autre dépendance, en fait. Je pense que les mécanismes sont à peu près les sont à peu près les mêmes, en fait.
Et donc, en parlant de vos futurs projets, vous disiez un prochain roman. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur la thématique qu'est-ce que vous voudriez aborder dans ce roman? Et concernant les poèmes, est-ce que vous voudriez aussi reprendre vos poèmes?
Oui, alors en fait, oui, j'ai plein de projets. J'ai aussi un projet de recueil de poèmes. Le roman, je peux pas trop en parler parce que là, l'histoire est vraiment en gestation. Donc, c'est un peu compliqué d'en parler. À l'avance, mais j'ai déjà bien avancé dessus. C'est en gestation, quoi. C'est en mûrissement pour le moment. Et puis j'ai un autre projet aussi. J'aimerais bien écrire des chansons pour un album, en fait. Des chansons. J'en ai pas mal d'écrites déjà. Alors, je joue un peu de guitare. J'ai pas de talent de musicien assez prononcé pour créer un album en entier. Mais j'aimerais bien un jour, quoi. Que quelqu'un chante des chansons que j'aurais écrites. J'ai un fourmillement, en fait, de projets dans ma tête en ce moment-là, oui.
Et du coup, est-ce qu'on peut parler aussi de ce qu'on vit actuellement, le sentiment d'enfermement que l'on subit, cette forme de privation de liberté individuelle? Finalement, ça pourrait réveiller chez certains des anciens démons ou des angoisses profondes. Qu'est-ce que vous pensez de cette situation actuelle?
Alors moi, ce que je pense, c'est qu'en fait... effectivement, on parle beaucoup de première, de deuxième vague par rapport à ce Covid. Moi, je pense qu'il va en arriver une troisième, qui celle-là sera psychologique. Et je pense qu'il va y avoir des dégâts. Alors, je ne veux pas faire un tropisme par rapport à l'alcool, mais je pense que d'ici un ou deux ans, on va retrouver ces problèmes-là chez beaucoup de gens, je pense. J'en ai peur. Cette histoire de confinement, moi je sais que je l'ai très bien vécu, je l'ai vécu avec assez de sérénité, parce que paradoxalement tout ce que j'ai enduré en fait il y a 10 ans, en fait ça peut paraître paradoxal, mais m'a renforcé quelque part, m'a construit, m'a endurci quelque part pour justement encaisser ces moments difficiles de la vie. Mais je sais que pour certaines personnes, ce confinement, cette ambiance très anxiogène en ce moment est pas facile à vivre. Et pour les personnes plus fragiles, ça va être, je pense, assez compliqué. Moi, dans mon parcours de soins, finalement, quelque part, j'ai appris à mettre en place des solutions, des paravents, des protections, des choses pour faire que tout ça ne m'impacte pas trop, en fait.
Est-ce que vous pourriez nous dire un message d'espoir que vous auriez à donner ou à conseiller à toutes ces personnes qui malheureusement ont vécu ou vivent encore des périodes douloureuses pour essayer de s'en sortir?
Oui, alors ce que je pourrais leur dire, c'est que ce livre, quelque part, c'en est de la preuve, parce qu'on peut y arriver, on peut s'en sortir. Je sais que c'est très difficile, qu'il faut affronter souvent beaucoup de rechutes, mais que quelque part, finalement, à chaque rechute, en fait, on construit la sortie, en fait, au travers de chaque rechute. Et chaque rechute, en fait, n'est pas vaine, n'est pas inutile. Et il faut pas se désespérer. Et si j'avais un conseil à donner, c'est peut-être, alors c'est pas tout le temps possible, moi c'est ce que j'ai fait, c'est qu'en fait à un moment je me suis dit il faut que je parte, c'est-à-dire je suis pas parti très loin, je suis parti dans un département à côté du Puy-de-Dôme, mais j'ai quitté l'endroit où je vivais. Et j'ai eu ce réflexe-là, c'était presque comme un réflexe de survie, je savais pas pourquoi vraiment il fallait que je parte. Et en fait, c'est à partir du moment où je suis parti, où je suis allé me reconstruire en fait ailleurs pour mieux en fait revenir après. Et je pense que ça peut être un bon conseil, mais je sais que c'est pas évidemment facile pour tout le monde. Et puis l'autre conseil que je pourrais donner, c'est vraiment de il faut parler, il faut pas avoir peur d'embêter ses amis, et surtout un autre conseil, c'est que pour les gens qui vont être hospitalisés en cure, alors elles peuvent durer 1 mois, 2 mois, 3 mois, le souci qu'on peut avoir dans ces cures, c'est que finalement, au bout de 15 jours, quand le sevrage physique intervient, c'est-à-dire que votre corps ne ressent plus le besoin d'alcool, par contre, il reste bien caché dans votre cerveau le besoin, on va dire, psychologique, on se sent vite très très au chaud dans un cocon, c'est-à-dire qu'on est avec des gens qui ont le même problème que vous, puis finalement on est à l'abri du monde, et puis on est bien. Et en fait, on ne prépare pas sa sortie. Et le problème, c'est qu'il y a un moment, il faut bien en sortir. Et d'un seul coup, on se retrouve dans le monde qu'on avait quitté avant, qui est toujours finalement aussi violent, et l'actualité qu'on vient souvent le montre bien. Et c'est là, si on n'a pas préparé psychologiquement sa sortie, si on n'a pas préparé matériellement sa sortie, c'est là qu'effectivement le risque de rechute derrière est encore plus grand, quoi.
Est-ce que vous vouliez ajouter encore un élément de réponse que vous vouliez peut-être apporter qu'on n'a pas abordé durant cette interview ? Ce sera le mot de la fin.
Le mot de la fin, alors, j'aime bien inverser la formule. Vous savez, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Moi, je l'inverse et je dis, tant qu'il y a de l'espoir, il y a de la vie, en fait. Donc, il faut toujours continuer d'y croire, même si c'est pas facile. Et que, voilà, ce livre, il est un peu fait pour ça aussi, quoi. Si ça peut aider quelques personnes, ce sera déjà énorme, quoi.